On est en studio aujourd'hui avec Tom qui est étudiant et qui souhaite travailler dans le milieu de la mode, notamment spécialisé en design et en images de mode. Alors pour te créer ton expérience, tu travailles déjà avec des marques, hein, comme par exemple avec la maison de cachemire Tricot, avec qui tu as récemment fait un shooting. Les photos sont d'ailleurs disponibles sur leurs réseaux sociaux. C'est cet univers que tu connais bien qu'on va aborder aujourd'hui. Donc voilà ton expérience en tant que mannequin, l'ambiance pendant les castings, les shootings, les critères de sélection dans ce milieu, bref un peu tout l'envers du décor. Merci d'être avec nous aujourd'hui Tom. Alors pour contextualiser, toi tu habites dans la région des Hauts-de-France, plus précisément dans l'Oise. Donc tu travailles beaucoup dans des agences sur Paris, mais on en parlera tout à l'heure, c'est en quelque sorte la région hein, et nos paysages d'ici qui t'ont permis de te démarquer dans ce milieu. On reviendra dessus dans un instant. Mais avant d'y arriver, on va revenir à la base de ton activité. Déjà on va commencer par les castings, concrètement comment ça se passe ?
Bien sûr, merci. Déjà, un casting, ça dépend si on s'y présente ou si on est appelé pour. Il y a différents types de castings. Il y a des castings qui sont ouverts à tous. Donc, peu importe qui tu es, tes mensurations, ton physique, tu peux y aller. Et il y a des castings où il faut des prérequis, où tu as été mis dessus, en gros, par tes agents. Si tu es en agence, bien sûr.
De ton côté, tu es en agence ?
Ouais, je suis dans 3 agences. Du coup, ces agents-là, ils peuvent t'appeler pour te dire « Tom, tu as été en request sur un casting ». Donc, ça veut dire que ce casting, il accepte qu'une sélection de mannequins qui veut voir pour un potentiel, bah, du coup, shooting, défilé, peu importe le projet. Et donc, comment ça se passe un casting ? Déjà, ça prend beaucoup de temps à l'avance. Il faut tout un entretien physique et aussi pour la peau, etc. Enfin, il y a toute une préparation. Et donc, le jour J, on se rend sur le lieu. Si c'est un casting sur demande, il va y avoir beaucoup moins de gens qu'un casting ouvert à tous. Donc, généralement, les castings sur demande, ça va très vite. Ça dure globalement 5 minutes, voire 10, mais c'est tout. Moi, la plupart des castings que j'ai fait, c'est généralement, on rencontre l'équipe créative d'une marque. Je dis ça par rapport à mon expérience à la Fashion Week. Donc, on rencontre les créateurs, les designers, tous ceux qui travaillent sur l'organisation du défilé. Ils nous demandent une présentation rapide, prénom, âge, taille, mensuration, etc. Ils nous demandent aussi de faire un aller-retour en marchant. Et ils nous demandent également nos composites. Donc, nos composites, c'est 4 photos de nous avec la face, le trois quarts, le plein pied et le demi-portrait.
Ça, c'est des photos que vous faites pendant le casting ou c'est un book que vous ramenez à côté ?
Alors, l'épaule, c'est vraiment avant. C'est vraiment quelque chose. C'est comme notre carte d'identité de mannequin, en gros. C'est vraiment ce qui va permettre de nous présenter au mieux, au naturel, pour que les designers, créateurs ou peu importe, s'imaginent le plus notre profil dans leur projet. C'est assez différent du book photo, parce que les polas, c'est vraiment quelque chose d'assez brut. Il n'y a pas besoin d'aller voir un photographe professionnel pour faire des polas. On peut le faire avec un téléphone, une très bonne luminosité, et c'est tout. Et on a juste 4 photos à faire et on les envoie aux agences. Un book, ça prend vraiment beaucoup plus de temps, parce qu'il faut des photos assez professionnelles. Il faut des fois des photos qui sont assez éditoriales, des fois qui font assez publicité. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de choses différentes.
Et au niveau des castings, quand vous travaillez comme ça en agence, est-ce que vous êtes envoyé plusieurs par la même agence ? Comment ça se passe un peu l'ambiance entre vous ? Est-ce que c'est compétitif ou est-ce que c'est plutôt solidaire, on va dire, vu que vous êtes dans la même agence ?
On est souvent beaucoup d'une même agence à être envoyé sur un casting. Ce n'est pas le cas à chaque fois. Des fois, dans l'agence, on va être juste un seul mannequin envoyé sur un seul casting. Mais généralement, c'est vrai qu'on se croise. Alors, entre nous, c'est vrai que c'est plus familial que quand ça met en concurrence plusieurs autres agences. Après, ça ne veut pas dire qu'on va forcément se mettre des bâtons dans les roues ou quoi, mais il y a des gens malveillants qui peuvent saboter certains mannequins. Par exemple, un jour, j'étais à un casting et la fille en face de moi n'était pas du tout de mon agence. Je crois que son talon qu'elle avait dans son sac venait de se casser parce que c'était un talon très usé qu'elle utilisait que pour ses castings. Elle a demandé, je ne sais pas si c'était une fille de son agence ou pas, mais à la fille juste devant, si après son passage à elle, elle pouvait lui emprunter ses talons, juste le temps de faire un aller-retour. Elle lui a dit non, pour en fait sauver sa place, en fait, parce que la place est comptée sur 300 personnes, il n'y en aura peut-être que 2 ou 1 sélectionnée. Donc en fait, c'est un milieu, on ne va pas non plus s'entraider entre nous, parce que le but, c'est de décrocher le job, sinon on ne travaille pas, on n'est pas payé.
Et en attendant, du coup, vous voyez tous, vous êtes tous ensemble, est-ce qu'il y a un peu ce
cette relation un peu de comparaison entre vous?
Il y a toujours des fois ces petites comparaisons qu'on se fait entre nous. Par exemple, un mannequin qui va me dire « Ah, ça m'étonne que tu sois sur ce casting-là, parce que moi, quand on me l'a envoyé, on m'avait dit que c'était quelqu'un aux cheveux bruns et toi, t'es blond. » Enfin, il y a toujours en fait ces petites questions. Je pense quand on nous envoie le casting, des fois, on a l'impression en fait d'être un peu l'unicité qui cherchait, en fait, la personne exacte qui cherchait. Et en fait, on se rend compte des fois au casting que les profils, ils sont hyper variés. Des fois, c'est assez surprenant la diversité qu'il y a.
D'ailleurs, je me permets un peu de rebondir sur ça. On parle beaucoup de beauté atypique, de diversité. Est-ce que dans la réalité du terrain, toi, tu sens que ça évolue vraiment de ce côté ou ça reste encore un peu limité?
Alors, ça, c'est une hyper bonne question. La mode, depuis quelques années, en tout cas, le monde du mannequinat essaye d'intégrer de plus en plus de nouveaux profils, de différentes tailles, de différents visages qui n'avaient pas été mis sur le devant de la scène, entre guillemets. Plus en plus de couleurs de peau, d'ethnie, etc. Oui, ça permet de créer une diversité, mais cette diversité, je ne sais pas comment trop l'expliquer, mais elle est quand même écartante. C'est-à-dire qu'on va apporter une diversité culturelle, donc mettre plus de visages de femmes noires et d'hommes noirs sur, par exemple, les défilés, etc. Mais en fait, des fois, il y aura des clans qui vont diviser parce que le mannequin, il n'aura pas la peau assez noire.
Il y a toujours des critères, en fait.
Mais
même
c'est
si
ça.
On essaie de les élargir.
Exactement. Ouais. Par exemple, la mode essaie d'intégrer les sample size, donc les tailles extra larges. Mais en fait, dans la mode, les tailles extra larges, c'est un 36, 38. On va appeler ça des mannequins curvy, donc des mannequins avec des formes. Mais en fait, ce n'est pas vraiment des mannequins avec des formes, c'est juste des personnes, on va dire, avec la normale, en fait, c'est juste la norme. Ils jugent que la norme, c'est de faire un 34, 32, alors que pas du tout.
Et c'est quoi la partie du métier que les gens ne soupçonnent pas forcément?
On peut être viré d'une agence parce qu'on a pris une taille en trop, qu'on a changé de morphologie, que notre peau a un peu changé, parce qu'on a eu de l'acné ou quoi, du coup, il faut faire très attention à ça. Pareil, si on change de coupe de cheveux ou de couleur de cheveux, ça peut être rédhibitoire pour notre carrière, ou alors il faut d'abord en parler à notre agent, d'agence, etc. Et c'est vrai que déjà, tout ça, ces choix où on est un peu dicté, les gens ne le voient pas forcément. On se prive de beaucoup de choses par rapport à ça, mais après, on le veut bien aussi. Hein. Après, les jours de shooting, etc., moi, je sais que personnellement, j'évite de manger le matin. Sur un shooting, tu peux vite avoir le visage qui gonfle, etc. Quand j'ai un shooting de prévu, je ne mange pas de pain. Je mange rien du tout, enfin, en tout cas en termes de gluten, etc., pour pas que j'ai le visage gonflé, parce que le but, c'est d'avoir nos traits les plus fins possibles. C'est l'industrie qui le demande, mais ouais, des fois, on se prive beaucoup pour les jobs, etc.
Une fois qu'on a fait ces castings, du coup, si on est retenu, il y a le shooting qui va derrière. Par rapport au shooting, est-ce qu'il existe différents types de shooting et c'est quoi, du coup?
Ouais, il y a plusieurs types de shooting qui existent. L'un des premiers que j'ai fait, moi, c'était un shooting publicitaire pour une boutique qui vendait de la skincare coréenne. Donc, dans l'identité de la pose, tout ça, au niveau du mannequin, c'est très différent qu'un shooting éditorial, où le shooting éditorial, il est plus là pour raconter une histoire et être présent dans un magazine tel que Vogue, GQ, etc.
Qu'est-ce qui va changer au niveau des shootings, de la manière de shooter derrière?
Par exemple, il y a le shooting e-commerce. Alors, le e-commerce, c'est hyper intense. E-commerce, en gros, pour ceux qui ne sont pas habitués avec les termes comme ça, c'est les shootings qu'on peut retrouver sur les sites de marques de vêtements. Donc, quand on regarde un pull, on voit un mannequin le porter, c'est ça du e-commerce. Et en fait, une journée e-commerce, ça va être par exemple 4 heures de shooting. Et en fait, pendant les 4 heures, tu fais que enchaîner les tenues. Donc, tu essayes une tenue, la styliste, elle te donne les tenues, elle te dit tu vas shooter. Le shoot, il dure 5 minutes sur cette tenue-là. Allez, en backstage, on rechange. Petite retouche maquillage, petite retouche cheveux, et tu reshootes. Et c'est ça toute la journée, donc c'est très, très rythmé. Un shooting éditorial, on va plus prendre le temps parce que ça va être vraiment quelque chose, une image qui va marquer. Même si on redemande à faire plusieurs fois les mêmes poses, le photographe va donner beaucoup plus d'indications qu'un shooting e-commerce. Le shooting éditorial, il faut vraiment qu'il impacte. C'est comme une couverture de magazine, donc il faut vraiment qu'elle soit puissante.
Comment est-ce que tu trouves que la région, elle évolue dans le domaine des shootings, de la photo, du stylisme? Est-ce que tu vois un peu une amélioration qui pourrait potentiellement te pousser à travailler ici?
Complètement. En fait, justement, comme cette activité-là, elle est généralement basée à Paris, on voit tous les pubs, les éditoriales dans la rue, dans un truc très chic, le parisien, la parisienne chic, élancée, etc. Et ça fait peu longtemps, je dirais moins de 10 ans, que les campagnes, les marques commencent à s'intéresser en fait aux paysages un peu plus... les paysages qui n'ont pas vraiment subi la transformation, l'urbanisation telle qu'on connaît Paris. Et quand on voit maintenant les campagnes des plus grandes marques, en fait, elles sont faites maintenant à la campagne parce qu'il y a ce décalage entre la tenue très mode et en fait, le côté très naturel derrière les champs. On peut citer la marque Jacquemus où c'est très provençal, c'est très champ. Il n'y a plus ce côté en fait, très rue puisque ça a longtemps été fait dans les plus grandes villes comme Paris, New York, etc. Et donc, la région, elle permet, elle, justement, d'avoir ce type de paysage et ce type en fait de contraste entre le côté ultra chic et du coup la vie un peu plus naturelle.
Toi, tu vis dans la région des Hauts-de-France. Comment est-ce que la région peut d'une certaine manière influencer ta créativité dans le milieu de la mode ?
Dans notre région, on a la chance d'avoir des paysages qui changent comme des champs, de la nature, et cette présence, je pense que ça peut permettre en tout cas, d'avoir cette singularité qui change, contrairement aux grands artistes de grandes villes. En tout cas, moi, ça m'a permis, en tout cas, de mettre un pied dans le mannequinat de par cette différence de paysage. Moi, par exemple, pour entrer dans ce milieu, il faut faire un book photo. C'est pas nécessairement demandé, mais ça peut vraiment booster tes chances de rentrer. Et du coup, dans ton book, tu intègres des photos un peu éditoriales. Et comme j'ai un peu étudié la photographie, je sais un peu me débrouiller avec les logiciels de montage. Et donc, ça m'a permis de faire mon book moi-même. Et donc, j'ai été dans des champs, faire des photos un peu style celles que je voyais dans les magazines, où justement, ils mettaient un peu en tension le naturel de la campagne et les accessoires ultra chic. Et c'est ce contraste-là un peu original qui plaît. Et du coup, des fois, ça permet de se démarquer. Et c'est vrai que dans notre région à nous, on a la chance d'avoir encore des rues ou encore des endroits qui n'ont pas été transformés par l'urbanisme. Quand on voit que dans la ville de Senlis ou même à Compiègne, il y a encore énormément de films qui sont tournés pour représenter la guerre ou alors les temps un peu plus anciens, parce que nulle part ailleurs, en fait, on peut trouver ces lieux-là, parce qu'ils ont tous été transformés par la vie moderne. Et c'est vrai que c'est quand même une chance de pouvoir, en tout cas, se développer dans ces lieux-là, parce que ça crée quelque chose, une singularité que tout le monde n'a pas eu, en tout cas, si directement ils avaient commencé à Paris.
Clap, prise 1, vision panoramique. Une caméra avance, gros plan sur Dominique.
Son dernier projet professionnel a été réalisé avec la marque de vêtements Seoucle. On peut retrouver les photos de ce shooting sur les réseaux sociaux de la marque, notamment sur leur Instagram, @seoucle. Les backstage de l'industrie de la mode, un reportage réalisé avec Tom Alter au micro d'Axel Corbeau pour Radio
Graphite. Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.